Veuillez ouvrir vos Bibles en Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, nous allons lire ce matin à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 34. La parole de Dieu est une parole infaillible. On peut lire ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit : bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : tu n'es pas loin du royaume. Et personne n'osa lui poser des questions. Voilà la parole, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prier. Ô Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous prions que tu nous donnes la grâce ce matin de recevoir ta vérité dans la foi, dans l'amour et dans la force pour suivre la voie que tu as établie devant nous à travers Jésus. Nous avons prié. Amen. C'était l'hiver intense, plus de 600 années, lorsque les soldats, il y avait plus de 1600 ans, par une froide journée d'hiver à Sebas, en Amérique, 40 jeunes soldats romains chrétiens de diverses nationalités ont appris que l'empereur avait ordonné à tous les soldats de l'armée d'adorer des dieux païens. Leur refus d'obéir à cet ordre les a conduits à être exposés nus sur un lac gelé. Il a mis, le commandant de cette armée a mis ces 40 jeunes-là dans un lac gelé, alors que l'un de leurs commandants attendait qu'ils renoncent à leur foi. Ils n'ont pas renoncé à leur foi. Et non seulement ils ont été torturés sur le lac gelé, mais étant donné que le commandant était étonné, les 40 personnes, les 40 jeunes, les 40 hommes n'ont pas renié Christ. Alors il a décidé de mettre un bain chaud qui a été installé sur le rivage pour les tenter de renier Christ. Et pendant cette nuit, un de ces 40 soldats est venu renier Christ et il est venu se doucher avec l'eau chaude. Mais un des soldats païens qui assistait à la torture a cru au Christ et s'est rejoint au groupe dans le lac. Et il a décidé qu'il était le croyant. Il était croyant après avoir vu toutes les manières, les souffrances de ces croyants, de ces croyants soldats, parce qu'ils ont compris, ils ont suivi le Seigneur. Alors ils ont suivi. Le lendemain, le commandant a dit aux soldats d'aller voir qui sont ceux qui sont vivants. Et le commandant a dit : s'ils sont vivants, alors on devait briser leurs pieds et les jeter au feu. Vous voyez, c'est une histoire triste, mais c'est une histoire qui nous parle de ces 40 personnes. Ils aimaient leur sauveur plus qu'ils n'aimaient leur propre vie. Qu'en est-il de vous, chrétiens? Est-ce que vous pouvez dire, comme vous êtes assis ici ce matin et que vous écoutez la parole de Dieu, comme, est-ce que vous pouvez dire que vous avez le même degré d'amour que ces hommes ont pour Dieu? Est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit? Qu'est-ce qui vous motive à aimer Dieu? Qu'est-ce qui vous réconforte et vous renforce à aimer Dieu? Vous savez, comme nous voyons cette partie, je voudrais que les chrétiens voient, et que vous savez que c'est dans l'évangile de Jésus, nous voyons l'objectif d'aimer Dieu et d'aimer nos voisins comme nous croyons en Jésus pour notre salut. C'est l'évangile qui donne aux croyants le pouvoir, la puissance d'aimer Dieu et de croire en lui pour notre salut. Et comme nous considérons cette parole ce matin, je voudrais d'abord que nous considérions que l'évangile et l'évangile de Dieu est une puissance pour nous. Et donc, ce que nous devons voir également ici, ces paroles étaient déclarées dans les dernières semaines du Seigneur lorsqu'il était sur la terre et il a traversé Jérusalem. Il a reçu les adorations, qu'il était le roi des rois. Il est venu dans le temple. Il a condamné ce que les leaders juifs faisaient. Et depuis ce moment, il a fait face à l'opposition. Les religieux venaient questionner son autorité parce qu'ils demandaient avec quelle autorité il faisait cela. Ils étaient venus pour le décourager à cause de ce qu'il faisait. Mais ici, dans ce passage, pour la première fois, au milieu de ses conflits avec ses leaders, il a demandé, ils sont venus avec une question sincère. Un leader, vous savez, en ce moment, les leaders d'Israël devraient dire qu'il devait trouver beaucoup de lois. Et cet homme avait posé une question sincère. Il y avait beaucoup de lois. Et il s'est posé la question, quelle est la loi qui est importante pour nous permettre de comprendre les autres lois? Et il est venu à Jésus. Il ne voulait pas le confronter, mais il voulait avoir une réponse à travers la question sincère. Mais ce qui est important dans ce passage, c'est que Jésus a répondu à sa question en citant Deutéronome chapitre 6, verset 4 et le verset 5. En réalité, il répondait à la question à travers un autre passage, Deutéronome 6, verset 4 et 5, un passage qui lui a été donné, dont il a cité Deutéronome chapitre 6, verset 4 et 5. Et je voudrais que ce matin, que vous ouvrez vos Bibles et que vous voyez. Je crois que vous avez vos Bibles parce que généralement, nous avons l'habitude de sauter sur la parole. Il faut aimer Dieu. Mais il faut faire attention à ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse dit plus que cela parce que la première chose qu'il a dit ici, il a dit « Écoute Israël ». Vous voyez, il y a l'impératif ici parce que Israël devait continuellement écouter la parole de Dieu. Et donc, nous ne sommes pas surpris lorsque Paul dit en Romains que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il devrait écouter? Donc, la première chose qu'ils ont écoutée, qu'ils devaient écouter, c'est que Dieu est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Qui peut le dire? L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Qui peut réclamer cela et dire que l'Éternel est son Dieu? Les incroyants ne peuvent pas le dire, mais ceux qui croient en l'Évangile, ceux qui sont rachetés par Dieu, ceux qui, dans le contexte de Deutéronome chapitre 6, sont sortis, sont délivrés, sortis d'Égypte, ils sont rachetés par Dieu, ils ont vu les œuvres merveilleuses de Dieu, ils ont vu Dieu qui accomplissait des miracles dans leur vie, et voilà, ce sont des gens qui peuvent réclamer qu'ils sont le peuple de Dieu, que Dieu est notre, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est, et là, il faut comprendre que l'Éternel était là, il était leur sauveur. Ils pouvaient réclamer que l'Éternel est notre Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Comme nous venons à croire à Dieu, en Dieu, le seul et unique Dieu qui nous a sauvés et qui nous a rachetés par la puissance et par le sang de Jésus. Il est celui qui, à travers lui, nous pouvons dire « Dieu est notre Père, l'Éternel est notre Dieu ». Vous savez, Moïse, il a fait la provision et il a pris, le Seigneur est la somme et la substance de l'Évangile. Et donc, dans ce contexte, il est le motif de notre rédemption. Il est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est la raison, tout ce que Jésus a fait pour nous, pour notre salut, notre rédemption. Nous avons toutes les raisons pour l'aimer, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Mais vous voyez, Moïse ne le dit pas ainsi seulement, mais il dit que l'Éternel est notre Dieu. Mais il dit aussi que l'Éternel est unique. Il est le seul. Et il va jusqu'à dire qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il est le seul et unique dans tous les aspects. Sa pensée, sa force, il est l'absolu. Et à travers sa puissance, à travers la puissance du Saint-Esprit, nous sommes appelés à l'aimer comme la Bible nous le demande. Et vous savez ce qui se passe ici? Jésus nous donne la raison, il nous donne le motif de la puissance qui vient de Dieu pour que nous puissions aimer Dieu avec notre pensée, notre cœur et notre âme. Moïse nous dit quelque chose de très important pour notre vie ce matin. Il donne au peuple de Dieu l'Évangile. L'Évangile sauve les gens qui ne le méritent pas de l'esclavage. C'est exactement ce que Dieu fait. Dieu fait au peuple d'Israël. Alors Moïse, il a mis l'Évangile en première position et ensuite il a ajouté la loi. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que Moïse met les paroles, ces paroles dans cet ordre? Mais je crois que la réponse à cela, c'est parce que c'est l'Évangile qui nous donne la puissance suprême pour garder le premier commandement de la loi. Parce que Dieu nous a aimé le premier et parce qu'il nous a montré le grand amour qu'il a pour son peuple. Donc, parce que nous avons été sauvés, nous sommes capables de lui obéir. Alors l'Évangile vient d'abord, ensuite la loi. Et le commandement que nous recevons de lui, c'est d'aimer Dieu. Parce que Jésus, tout le devoir de l'homme, toute la moralité et toute la loi morale et cérémonielle peut se résumer en un, l'amour. Pourquoi cela? Pourquoi l'amour? Pourquoi Dieu ne dit pas que la première chose que vous devez faire est d'aller à l'église et d'adorer? Pourquoi Dieu ne dit pas que la première chose à faire, c'est de lire la Bible, votre Bible. Pourquoi Dieu ne dit pas que la première chose, c'est de donner des offrandes à Dieu? Mais pourquoi dit-il que le plus grand et le premier commandement, c'est d'aimer Dieu? Vous voyez? Vous devez vraiment aimer Dieu. Pour le faire, nous devons le faire avec sincérité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du vrai amour. Si Dieu, parce que et Dieu ne va pas obliger tout le monde à l'aimer parce qu'il n'y aura pas la sincérité dans cet amour. Mais la sincérité de cœur, c'est ce que Dieu demande. Et c'est ça qui va nous amener à l'adorer, à venir à l'église. Parce que nous l'aimons, nous lui donnons le meilleur que nous avons. Et parce que nous l'aimons, nous voulons apprendre de lui. Et parce que nous l'aimons, nous voulons croître dans la connaissance de la parole de Dieu. L'amour de Dieu est ce qui nous donne la capacité de faire cela et également d'être accepté de Dieu. Rappelez-vous que Jean chapitre 4, Jésus a enseigné en disant que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Cela doit venir de la sincérité de nos cœurs. Vous savez, l'amour, l'amour ne se voit pas seulement dans nos émotions. L'amour est démontré à travers des actions. Dans Jean, versets 14 et 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 14, verset 15, dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et parce que nous devons aimer Dieu, Dieu exige de nous l'amour, qui ne peut pas être comparable à l'amour que nous avons envers les autres choses de la vie. Et donc, vous devez faire attention au verset 30. L'intensité de l'amour que Dieu exige de nous. La préposition ici que nous avons en grec et dans la langue originale donne une meilleure compréhension de la traduction. L'idée ici, c'est que nous devons donner cet amour à Dieu depuis la source. Il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que ça doit venir de la profondeur de votre cœur. Ça veut dire que nous devons donner tout ce que nous avons à Dieu. Et donc, ça veut dire que l'amour doit venir de toute la source, de profondeur de notre cœur. Vous voyez, les Écritures sont claires concernant les besoins de nos cœurs d'être centralisés à Dieu, centralisés sur Dieu. Dans Psaume chapitre 24, verset 4, il dit que le cœur, la pureté du cœur est requise pour ceux qui aiment Dieu et souhaitent l'adorer. En Psaume 42, il dit que l'esprit ou l'âme est responsable de nos exercices spirituels les plus élevés. L'âme exprime la douleur et la joie qui accompagnent inévitablement la vie de foi. Il nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et également de toute notre force. Vous voyez, tout ça là est interconnecté. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous ne comprenons pas qui il est. Si nous lisons la Bible et nous pensons que la Bible est un livre pour les enfants, alors que Dieu veut que nous comprenions la richesse, la profondeur de sa révélation. Aimer Dieu de toute sa pensée, de toute sa force, c'est de l'aimer avec toute la disposition et attitude envers lui. Nous ne devons pas simplement le connaître, mais nous devons nous soumettre à son commandement et aimer Dieu de toute notre force. Aimer Dieu de toute notre force, c'est d'aimer Dieu d'une manière qui prend en compte tout notre être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous vous posez la question, pourquoi est-ce que Dieu veut tout mon cœur? Pourquoi Dieu veut toute mon âme? Pourquoi Dieu veut toute ma pensée, ma force? Vous pouvez Vous pouvez poser la question avec, à votre époux ou votre épouse pour lui demander, est-ce que ça te va que je t'aime 50%? Si vous posez la question à vos enfants, est-ce que c'est bon pour eux que vous les aimiez à 20% seulement? Vous savez, Dieu nous a donné toutes choses. Il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit que tout le monde... Il n'a pas dit qu'il va nous donner une partie de son amour, mais il a donné tout. Il ne faut pas dire, par exemple, pour l'adoration le dimanche, il faut croire qu'il ne va pas accepter une partie de votre amour. Il veut que vous lui offrez tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force et tout ce que vous avez. Il veut que tout cela appartienne à Dieu. Et je crois que la question naturelle qui vient de ce passage, c'est est-ce que vous aimez Dieu? Chrétien, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Et peut-être la plupart d'entre vous ici, vous pouvez penser sans même douter que oui, j'aime mon Dieu, mais est-ce que tu l'aimes véritablement? Si Dieu te retire ta santé, est-ce que tu vas toujours l'aimer? S'il te retire ton argent ou ton travail, est-ce que tu vas continuer toujours pas l'aimer? Est-ce que tu vas continuer toujours pas l'aimer? Qu'en est-il s'il prend tes enfants, s'il les retire de toi? Tes amis, les gens que vous aimez plus dans la vie, est-ce que vous allez toujours l'aimer? Peut-être que vous pensez que Dieu ne peut jamais faire quelque chose de pareil. Mais nous avons des exemples dans la Bible. Job, il a perdu tout. Vous voyez? Si nous ne comprenons pas l'évangile, dans notre salut et notre rédemption, lorsque ces choses se produisent dans notre vie, nous allons abandonner Dieu. Parce que nous allons commencer par penser comment est-ce que l'amour de Dieu, Dieu va faire venir ces choses. Nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous, pour lui obéir et l'aimer comme la Bible exige cela de nous. Nous devons l'aimer de la manière dont les Écritures nous enseignent que nous devons l'aimer, comme au moment où les choses ne vont pas bien ou au moment où les choses vont bien dans notre vie. Mais comme nous continuons dans le passage et que nous lisons le verset 31, vous voyez, l'ordre de ce passage implique que l'amour de Dieu est une condition préalable à l'amour de notre prochain. Et l'expression claire de l'amour de Dieu est d'aimer ceux qui sont faits à son image. Et la première chose que je veux que vous considérez ce matin, c'est que l'évangile nous donne le motif et la puissance d'aimer notre prochain. Et donc, Jésus a répondu à la question en lisant un autre passage des Écritures, Lévitique chapitre 19, verset 18, il nous donne le résumé de la deuxième tablette de la loi. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que je peux aimer mon voisin. Parfois, nous oublions que le motif et le pouvoir pour faire ce qui est difficile. C'est très difficile d'aimer nos voisins comme les Écritures le disent. Le motif et la puissance pour le faire, la force pour le faire vient de Christ. Comme nous regardons à notre Sauveur et son incarnation et ce qu'il a fait à ceux qui sont semblables à lui, ce qu'il a fait pour eux, c'est là-bas que nous retrouvons le motif pour aimer nos prochains. parce que nous voulons suivre son exemple, nous voulons suivre son amour, nous voulons que nos pensées soient semblables à la pensée de Dieu, nous voulons être transformés pour être à l'image de Christ. Et donc quand nous le voyons et nous voyons ce qu'il a fait à travers son incarnation, nous avons alors la raison et le motif de faire cela. Mais si nous pensons à notre propre salut et que nous voyons la puissance pour aimer nos prochains, et aimer son prochain, c'est quelque chose qui est contre la culture, c'est contre-culturel, et c'est également souvent les gens vont aller contre ce que la Bible dit. Mais qui est notre prochain? Ce n'est pas les gens ont écrit des livres pour répondre à cela, qui est mon prochain? Mais notre prochain dans notre contexte, ce sont des gens que nous connaissons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aimer des gens qui se retrouvent par exemple en Chine, des gens que vous ne connaissez pas, mais des gens qui sont avec vous dans la maison, des gens qui sont avec vous dans le voisinage, vous devez les aimer. Et vous devez les aimer d'une manière différente de l'amour du monde. Par exemple, la manière dont le monde aime les gens, c'est assez un amour intéressé. Si je peux avoir quelque chose de toi, je vais t'aimer. Mais l'amour veut des choses en échange. Ça, c'est l'amour mercenaire. Le monde discrimine l'amour mercenaire. Que puis-je gagner? Que puis-je gagner dans cet amour? Il y a également l'amour du monde qui discrimine ma tribu. Est-ce qu'il est de ma tribu? Est-ce qu'il est de ma famille? Est-ce qu'il est de mon ethnie? Est-ce qu'il est de mon groupe? Ça, c'est l'amour qui discrimine. Mais il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il y a l'autre également qui n'est pas bon, c'est l'amour intéressé. C'est-à-dire que l'amour qui vous amène à s'aimer soi-même, l'amour de soi. Il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que nous pouvons aimer nos prochains? Mais la bonne manière de répondre à cette question, c'est de se demander quel amour est-ce que nous voulons avoir. Est-ce que c'est un amour qui souffre avec nous? Est-ce que c'est un amour qui n'envie pas? Est-ce que c'est un amour qui ne jalouse pas? Est-ce que c'est un amour qui ne s'enfle pas? Est-ce que c'est un amour qui ne se comporte pas grossièrement? Est-ce que c'est un amour qui ne pense pas au mal? Est-ce que c'est un amour qui ne se réjouit pas de l'iniquité, qui supporte tout, qui espère tout? Voilà, c'est ça. C'est l'amour que nous allons démontrer à d'autres parce que c'est ce que nous voulons avoir. La Bible est claire du type d'amour que Dieu exige de nous. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Il dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Il nous dit d'aimer même ceux qui nous détestent. Comme de fois, voyons-nous dans les Écritures qui nous enseignent, où nous sommes enseignés, de pouvoir aimer les veuves, les orphelins dans nos communautés, de prendre soin d'eux. Peut-être que vous êtes dans cette salle aujourd'hui et vous dites que ça fait trop pour moi. Je ne peux pas, lorsque moi-même je traverse des moments difficiles, je ne peux pas le faire. Vous avez le problème de ce genre de raisonnement, c'est que la Bible nous enseigne d'aimer nos ennemis. Il y a quelqu'un, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son prochain, il est un menteur. Alors vous ne pouvez pas vraiment aimer Dieu si vous n'aimez pas vos prochains, si vous haïssez vos prochains. C'est contradictoire. Peut-être que ce passage est très clair et cela constitue une attaque directe à ceux qui disent qu'ils ont la foi sans les œuvres, les gens qui vont à l'église tous les dimanches et qui pensent que la vie chrétienne consiste seulement à dire que lorsque je dis que je suis chrétien, toutes les portes vont s'ouvrir pour moi et qu'ils vont se sentir bien, mais dans la réalité, ils ne se comportent pas comme des chrétiens. Ils pensent que leur foi peut être séparée. Et donc, c'est clair que l'amour de Dieu, l'amour des croyants, la foi que nous avons n'est pas séparée de la pratique de croire en Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer nos voisins. Nous devons aimer nos prochains. Et les Écritures sont claires. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, « Si vous ne savez pas comment mettre en pratique ce en quoi vous croyez, alors vous ne connaissez rien. » Et Jacques dit clairement que la foi sans les œuvres est morte. Vous ne pouvez pas dire que j'ai la foi en Dieu alors que vous êtes un croyant. C'est la foi morte. Et les Écritures nous rappellent chaque fois que le christianisme n'est pas une culture dans laquelle nous sommes nés, mais c'est quelque chose. Le christianisme est ce que nous expérimentons par la foi et notre vie également. Maintenant, je vais vous poser encore cette question. Qui est votre voisin le plus proche, le plus rapproché? Qui est la personne la plus proche de vous? Peut-être. Si vous êtes ici par vous-même, si vous n'avez pas une famille ici, vous pouvez dire que mes voisins les plus rapprochés, ce sont mes collègues de service ou bien mes camarades d'école. Ou bien, si vous avez vos parents ici, vous pouvez dire que mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ce sont des personnes très proches de moi. Mais quelle est la dernière fois que tu as partagé l'évangile avec eux? Quelle est la dernière fois que vous, parents, vous avez dit à vos enfants qu'ils ont besoin d'accepter Jésus comme il s'est offert pour eux dans l'évangile, qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés? En quel moment vous avez parlé à votre frère incroyant de l'amour de Dieu et comment il doit aussi accepter Christ pour son salut? Voyez, l'amour de Dieu consiste à partager également l'évangile à ceux qui sont autour de nous. L'amour ne peut pas se démontrer plus mieux que de partager l'évangile avec nos prochains. Et alors, le passage également constitue une attaque à ceux qui vont et qui vont aimer, aider les gens sans se référer à la Bible. Vous savez, l'évangile, c'est ce qui nous donne le motif et le pouvoir ou la force d'aimer nos voisins. Les références sont données, nous sommes faits à son image. Et vous voyez, quand Jésus a donné ses réponses, il a commencé à écouter ce que les scribes ont dit. Donc, verset 32 jusqu'au verset 34, je voudrais que vous considériez que l'évangile, c'est la confiance en Christ pour notre salut. C'est pour démontrer à Christ, c'est pour voir comment est-ce que la réponse de Jésus était satisfaisante. Le scribe, verset 32 et le verset 33, il dit, le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est l'unique. » C'est la bonne interprétation que tu as donnée en disant que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre de lui. Et il y a des choses importantes et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Dans le verset 34, nous voyons l'encouragement, la déclaration de victoire que Jésus a donné. Verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Et il fait une déclaration de la victoire, et personne n'osa plus proposer des questions. Quand les gens qui étaient venus pour le contrarier ne pouvaient plus venir parce qu'il a répondu. Mais regardez comment Jésus-Christ nous a encouragés dans le verset 34. Il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et donc, vous comprenez cela. Il comprenait ce qu'il devait faire, mais il lui manquait quelque chose. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dit, tu n'es pas loin. Il n'a pas dit que tu es dans le royaume, mais il a dit, tu est éloigné. Il y a quelque chose que cette personne manquait. Qu'est-ce qu'il manquait? Comme il écoutait Jésus et qu'il voyait la sagesse de Jésus, cet homme n'était pas capable de venir à la conclusion que il n'est pas capable d'obéir à ce commandement. Il n'est pas, jusqu'à un moment donné, il pensait que je ne peux pas le faire, je ne peux pas aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je ne peux pas aimer mon voisin, mon prochain, comme Dieu me l'exige, Dieu exige ça de moi. Et il est parvenu à la conclusion que parce que je ne suis pas capable de le faire, alors j'ai besoin d'avoir un sauveur. Donc, il n'est pas loin du royaume, mais il n'est pas encore dans le royaume. Il n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Combien d'entre nous ici ce matin sont dans la même situation? Vous venez ici chaque matin, chaque dimanche. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous comprenez la parole de Dieu? Qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ parce que vous ne pouvez pas obéir à la loi à travers vos propres efforts. Toutefois, vous ne vous êtes pas confié totalement à Christ et à sa Seigneurie dans votre vie. Combien d'entre vous pensent? Peut-être il y a de cela une année, peut-être dans l'avenir. Peut-être si j'ai besoin d'eux et que je vais me soumettre à Christ. Vous savez, le problème avec cela, c'est que vous vous retrouvez dans la même situation que cet homme. Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, mais vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Mais je voudrais vous encourager avec l'évangile aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit que par les œuvres, aucune chair ne va être justifiée. Personne dans cette salle ne peut obéir parfaitement à ces commandements. Personne dans cette salle n'est capable d'accomplir ce commandement à la perfection. Peut-être que vous aimez vos voisins pendant une minute ou deux minutes, quelques minutes, mais si nous ne pouvons pas obéir à ce commandement, si la loi ne peut pas nous justifier, que devons-nous faire? Nous avons besoin de nous retourner vers Christ. Vous savez, le fondement ou bien la fondation nous est donnée ce matin, c'est d'aimer Dieu et nos prochains comme Christ nous a demandé de le faire, comme l'évangile nous donne le motif et la force et le pouvoir de le faire. Comme nous tournons à Jésus et nous lui disons que Jésus, nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu exige de nous. Par conséquent, nous avons besoin que tu nous amènes dans le royaume. Vous savez, mon frère, mon ami, ne sois pas éloigné du royaume de Dieu. Ne sois pas loin du royaume de Dieu. Ne pas être loin du royaume est différent de ne pas être dans le royaume. Quand vous écoutez l'évangile aujourd'hui, ce matin, je voudrais que vous vous soumettez au Seigneur Jésus, notre Sauveur. Chrétien, es-tu prêt à aimer Dieu avec la même intensité que ces 40 soldats romains dont on a parlé en début? Est-ce que tu peux dire que tu valorises et que tu acceptes et que tu comprends le prix que Christ a payé pour l'âme de ceux qui viennent à lui? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez aimer votre prochain qui est assis à côté de vous? Combien sont ici aujourd'hui et qui sont capables de dire, Seigneur, je sais ce que je dois faire, je le sais, mais misérable que je suis, Jésus, aide-moi dans ma faiblesse. Et quand vous pensez à cela, il faut En écoutant cela, il faut demander à ce que l'Évangile vous donne le pouvoir, le motif d'aimer Dieu et d'aimer vos prochains comme vous-même. Nous allons prier. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment sincèrement notre Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous prions que nous te disons merci pour le grand amour que tu nous as donné. Quand nous étions pécheurs, tu nous as aimés. Et tu nous as donné ton Fils, ton unique Fils, afin que lorsque nous croyons en lui, nous puissions arriver dans le royaume. Nous pouvons parvenir dans le royaume. Nous prions ce matin que ta parole puisse œuvrer efficacement dans le cœur de ceux que tu as appelés pour le salut, les rendant capables de comprendre leur misère lorsqu'ils sont en dehors de Christ, leur incapacité d'obéir et de faire les bonnes œuvres en dehors de Christ, et de comprendre qu'il n'y a pas d'espérance pour eux lorsqu'ils sont hors ou loin de Christ. Seigneur, renouvelle nos cœurs. Donne-nous la connaissance dont nous avons besoin pour obéir comme nous avons appris que l'Évangile est la raison, le motif par lequel nous t'aimons et nous aimons nos prochains comme nous-mêmes. Et nous avons appris que le pouvoir que tu as, et tu nous as aussi donné cela, en nous unissant avec Christ à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Nous prions que tu nous aides et que tu nous sanctifies afin que nous croissions dans notre foi, dans notre compréhension, et que nous soyons renforcés à obéir à tes commandements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.